Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Et avec Jean-Pierre Foultier, évidemment, qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
C'est la dernière série de notre sixième saison des Chroniques culturelles de l'Europe. Alors après les sujets sérieux quand même de ces dernières semaines, faut bien l'avouer, c'en est un peu plus léger qui est au programme d'aujourd'hui.
Les vacances approchent, Sébastien.
Ah, c'est vrai
que,
ça.
Oui, il me semble que j'y avais pensé aussi. Et j'ai pensé pour ma part donc qu'il serait bienvenu de faire voyager nos auditeurs dans notre vaste Europe. Le tourisme sera donc le fil conducteur de cette série de trois chroniques. Celle de ce jour commencera par quelques chiffres et infos, puis nous prendrons vite le sac à dos pour visiter ensemble quelques lieux emblématiques.
Bon, des chiffres donc d'abord pour commencer sur l'activité touristique en Europe, je suppose.
Savez-vous, Sébastien, que 50% du tourisme mondial s'effectue en Europe, selon une enquête de 2021. 750 millions de touristes sont attendus en Europe en 2024 et parmi ces touristes, une forte majorité de non-européens, des Américains bien sûr, des Asiatiques. Mais les Européens ont pris aussi largement l'habitude de se rendre dans un autre pays que le leur. Les Français en font partie. Ils sont 78% à avoir effectué au moins un voyage touristique en, les chiffres sont de 2021, comme les Néerlandais, 81%, les Suédois, les Finlandais, les Irlandais, pour ne prendre que des pays de l'Union européenne. Des chiffres moins importants pour les pays de l'Europe centrale, moins de 30% par exemple en Bulgarie, en Grèce et en Roumanie, pays dans lequel 62% de la population déclare tout de même ne pouvoir se payer une semaine de vacances.
Ah oui, donc une industrie touristique qui compte quand même, cela dit, pas mal dans l'économie européenne.
En moyenne, le secteur touristique représente un peu plus de 6% du PIB européen. C'est d'ailleurs dans cette moyenne que se situe la France, comme l'Allemagne d'ailleurs. D'autres pays comme le Portugal, la Grèce ou la Croatie y puisent entre 10 et 15% de leur PIB. Mais ce chiffre est encore plus important pour de, disons, petits pays comme l'Albanie ou le Monténégro, dans lesquels un quart de la richesse provient du tourisme. Les pays touristiquement à la traîne, si l'on peut dire, se situent à l'est du continent, la Hongrie, la Roumanie, l'Autriche même, et le tourisme en Pologne n'atteint pas 3%. Ce qui est toutefois évident, c'est que l'offre touristique européenne est particulièrement riche et variée entre tourisme balnéaire, sportif, culturel, etc.
Et alors, est-ce qu'on sait dans quels pays vont le plus les touristes, qu'ils soient européens ou non d'ailleurs ?
Vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'est l'Espagne et ses plages, celles des Canaries, de Catalogne ou des Baléares, qui attirent le plus les Européens. Mais ce sont aussi la France et l'Italie, deux pays par ailleurs les plus visités, si l'on compte les touristes venus du monde entier avec, respectivement, 41 et 25 millions de visiteurs. Les chiffres sont de 2020. Un développement touristique qui n'est pas sans poser ici et là les problèmes liés au surtourisme. Je vous en reparlerai, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Mais cet attrait touristique n'est pas une nouveauté. Nos auditeurs les plus fidèles se rappelleront peut-être qu'à plusieurs reprises, j'ai évoqué dans ces chroniques ce qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, on appelait le Grand Tour et qui conduisait en Italie, en Grèce, mais aussi en France, les jeunes élites culturelles de l'époque.
Mais alors, voyager en Europe, c'est facile ?
L'un des grands acquis de la construction européenne, c'est la possibilité pour les citoyens de l'Union de circuler librement et de voyager à l'intérieur de ce que l'on appelle l'espace Schengen. En effet, depuis 1995, date de sa mise en œuvre et sauf circonstances exceptionnelles, les contrôles aux frontières ont été supprimés. Vous pouvez passer ainsi d'un pays à l'autre de l'Union, sauf en Irlande et à Chypre, sans avoir à montrer de pièces d'identité et sans même vous arrêter, même dans les deux derniers pays à avoir rejoint Schengen, la Bulgarie et la Roumanie cette année. La Croatie, elle, y était entrée en 2023. Mais l'espace Schengen englobe aussi des États qui ne sont pas dans l'Union, la Norvège, l'Islande, c'est un peu loin, mais aussi notre voisine la Suisse et le tout petit Liechtenstein. L'entrée dans ces pays y est donc libre. Il faut par contre, quel que soit le pays, avoir avec soi une carte d'identité en cours de validité qui peut vous être demandée à des fins d'identification ou pour des raisons de sécurité. Les enfants doivent aussi avoir la leur. Et si vous allez, Sébastien, dans un pays de l'Union avec votre toutou, pensez à demander à votre vétérinaire son passeport européen.
C'est noté.
Outre cette liberté de facilité de circulation, à laquelle il faut ajouter l'avantage que présente la possibilité de payer en euros dans les 20 pays qui l'ont adopté, les citoyens européens bénéficient aussi de certaines garanties et protections.
Ah, mais pour ceux qui prévoient de voyager, on peut peut-être en présenter quelques-unes ?
Avec plaisir. Par exemple, en cas d'annulation de vol ou de faillite du tour opérateur, pour l'achat d'un voyage à forfait par exemple. Il faut savoir aussi qu'un citoyen européen voyageant dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne peut faire appel à n'importe quel consulat d'un pays de l'Union si le sien n'y est pas représenté, en cas de perte de documents ou d'accident. Il recevra de la part du personnel de ce consulat les mêmes aides que celles qu'il aurait pu recevoir du consulat de son pays. On appelle cela la protection consulaire, c'est plutôt rassurant. Les citoyens européens bénéficient aussi des avantages de la carte européenne d'assurance maladie que l'on peut demander gratuitement à son assureur si l'on veut être couvert au cas où l'on en aurait besoin. Vous pouvez également appeler gratuitement le 112, le numéro d'urgence européen, à partir d'un téléphone fixe ou portable, où que vous soyez dans l'Union européenne. Il vous mettra directement en communication avec les services d'urgence, police, pompiers et ambulances. Côté téléphone, justement, il faut rappeler que les droits d'itinérance ont été abolis en 2017. Vous téléphonez à ou depuis l'étranger, dans un pays d'Europe, sans majoration.
Ça, c'est toujours bon à savoir. Donc, des infos importantes, pratiques, si on veut en savoir un peu plus, justement.
On peut aller sur les différents sites de l'Union européenne, notamment si l'on veut connaître les règles de circulation routière dans les autres pays de l'Union. La Commission européenne a lancé une application gratuite intitulée « Aller à l'étranger » et une appli « Droits des passagers » fournit des informations claires et concises sur les droits des voyageurs dans l'Union européenne. Et la Maison de l'Europe est là, bien sûr, pour vous renseigner.
Bien entendu.
Voilà. La semaine prochaine, je vous propose de faire un petit peu de tourisme, disons, culturel.
Bon, je prépare l'appareil photo. On se retrouve la semaine prochaine en short et débardeur, hein, bien évidemment, pour faire les vrais touristes. Et d'ici là, Jean-Pierre, bonne semaine à vous.
Eh bien, bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous. Infos, histoires et actu autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.